Bonjour Jean-Gilbert, bonjour aux amis, bonjour Rachel, mi compadre, hermano Edwin y hermana Heidi, que Dios me le bendiga ricamente. Muy contento de verle con nosotros esta mañana. Bonjour Rachel, aussi aux sœurs qui sont avec toi ce matin. Je suppose la sœur Chantal, la sœur Cilia, la sœur Mona. On les salue. Bonjour Sharon, que Dieu vous bénisse. Dieu la bénisse, hermana Flori, hermano Luis también. Tu veux dire bonjour aux gens, toi? Me lever à minuit et à 2h du matin. La demoiselle voulait aller faire un tour dehors. Elle a sauté sur le lit, elle a mis sa figure comme ça près de la mienne et elle me regardait. Voilà. Bonjour Marie-André. Bonjour à Farley. Coucou Farley, que Dieu te bénisse. Bonjour Immacula, soyez bénis. Bonjour Guy, bon matin et bon début de semaine à toi aussi. Je m'excuse s'il y a un peu de bruit ambiant. Il y a la pelle mécanique qui est en train de creuser devant la maison depuis que je suis rentré vers 7h ce matin. Donc vous risquez d'entendre un peu de boucan derrière. Bon matin la belle-mère. Shalom, shalom. Merci Marie-André. En tout cas sur mon horloge à moi, donc vous avez encore un bon 6 minutes pour vous préparer petit café ou autre. Puisque certains appellent affectueusement cette rencontre notre déjeuner spirituel, donc vous pouvez le combiner avec du café ou du thé, il n'y a pas de problème. Bonjour Charlotte, que Dieu vous bénisse. J'espère que l'électricité n'a pas trop pris de temps à être rebranchée chez vous. J'ai changé hier matin avec notre pasteur à Deux Montagnes et il ne savait pas si le culte aurait lieu. Faute d'électricité. Alors Mona, sœur Mona, il paraît que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Alors que Dieu te bénisse abondamment. On appelle la bénédiction du Seigneur sur toi et on invite tous ceux qui sont branchés ce matin à souhaiter un très joyeux anniversaire à notre bien-aimée sœur Mona. paraît que c'est une belle journée aujourd'hui, pas trop froid. Demain, c'est encore mieux, je suppose. Demain, il paraît qu'il va faire 12 ou 13 degrés. Mais aujourd'hui, déjà ce matin, il faisait autour de 5 quand je me suis levé, donc une belle journée. Bonjour Denise, bonjour Gérard. Tita, 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 Tita. Ingrid, que Dieu te bénisse. Très heureux que tu sois parmi nous ce matin. Et même à quelques kilomètres simplement. Sois béni. J'espère que le trajet s'est bien passé pour toi. Et que les enfants ont apprécié leur moment dans l'avion. Sois béni, Ingrid. J'ai très hâte de te voir. Marie-Marthe, bonjour. Si Marjolaine est avec toi, on la salue. Bonjour à mon père et à ma mère. Encore 2 petites minutes pour vous saluer. Et puis, comme je vois plusieurs qui le font, n'oubliez pas de souhaiter un très joyeux anniversaire à notre sœur Mona. C'est une des belles choses de nos rencontres quotidiennes. Ça permet de souligner des dates importantes pour les uns et pour les autres. Donc, je suppose que la sœur Mona, la sœur Rachel, lit les salutations à Mona. Il y en a déjà plusieurs. Rachel, depuis le début de la pandémie, elle a pris l'habitude de faire une conférence téléphonique avec quelques sœurs qui n'ont pas nécessairement accès à Internet. Et puis de se brancher avec elle pour leur faire écouter la bénédiction matinale. Donc on les salue. Bonjour Rosie, bonjour à André s'il est avec vous. J'espère qu'il fait beau à Mulhouse et à Strasbourg. Bonjour à la sœur Nancy. Oh, qu'elle doit être contente avec les petits-enfants et puis sa fille avec elle. Soyez bénie, ma sœur. Hello Sylvia, God bless you. Greetings to Pastor David also. Alors, on va débuter. On va prier pour commencer. Après ça, je vous indique ce qu'on étudie cette semaine. Alors, prions. Merci Seigneur pour cette bénédiction d'être rassemblés, même à distance, pour un court moment où on plonge les regards dans ta parole. Une parole qui est assurément source de bénédiction, source d'instruction et source d'enrichissement pour nous tous. Je te demande de prendre contrôle de cet instant, d'ouvrir notre entendement, de disposer de notre cœur afin que celui-ci soit un réceptacle approprié pour la semence que tu veux y planter aujourd'hui. Et arrose, Seigneur, tout ce qui sera partagé ce matin afin que cette parole puisse croître jusqu'à porter un fruit qui te sera agréable. De ce côté-ci de l'éternité comme pour le restant de l'éternité. Alors bénis ma sœur, bénis mon frère, Accorde-nous un merveilleux temps aujourd'hui dans ta présence et permets-nous, Seigneur, de grandir devant toi. Nous t'avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Soyez bénis. Tous ceux que j'ai déjà salués, les autres qui se connectent, heureux de vous avoir avec nous ce matin. Alors aujourd'hui et puis dans les 3 ou 4 prochains jours, on va approfondir la prédication qui nous a été donnée hier par le pasteur Hannibal. Son titre était « Les bénéfices de la justification ». Nous, on va étudier les versets subséquents et au lieu d'utiliser le terme « bénéfice de la justification », nous, on va y aller plutôt avec les conséquences de la justification. On se rappelle que le verset ou le texte qui servait de méditation hier était Romains 5, des versets 1 à 5, mais avec une emphase particulière sur le verset 1 et 2. Et nous, de notre côté, on va mettre une emphase plutôt sur les versets 3 et 4. Voilà pourquoi on ne parlera pas des bénéfices, mais plutôt des conséquences. Mais vous qui avez écouté la prédication d'hier, vous verrez que c'est une suite logique à l'enseignement d'hier. Donc on bénit le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Hannibal, et puis on prie que le Seigneur nous parle tout au long de cette semaine. Alors je lis pour vous dans Romains 5, le verset 1 à 5, qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions de l'espérance ou dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Alors, le verset 3 et 4, on va le diviser en 4 sections qui vont représenter, je m'excuse, qui vont représenter donc les 4 thématiques qu'on va étudier cette semaine. Hier, le pasteur Hannibal nous disait qu'effectivement, ayant été justifié par Christ, il nous expliquait que la justification était un acte légal, était une chose tout à fait juridique qui se passe au niveau spirituel, où le pécheur que nous, où les pécheurs que nous étions sont disculpés de leur faute en raison de la mort et de la résurrection de Jésus. Et parce qu'on est justifié, les bénéfices de cette justification à travers la mort et la résurrection de Jésus, c'était que, par conséquent, maintenant, on avait la paix avec Dieu, le shalom avec Dieu, thématique qu'on a déjà abordée il y a quelques semaines. Le fait d'avoir une relation apaisée avec notre Créateur, une relation restauré avec notre Seigneur. Donc la première ou le premier bénéfice, c'était la paix avec Dieu. Le deuxième, comme on le voit dans le verset 2, que nous avons eu accès à cette grâce, ayant été justifiés, nous avons accès à la grâce de Dieu. Et la grâce veut dire qui a le bienfait ou qui a la bonne traitance de quelqu'un. Donc, avoir accès à la grâce de Dieu, c'est avoir accès au bienfait de Dieu. Encore là, bénéfice d'avoir été justifié. Troisièmement, une grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Ça veut dire que cette bénédiction de Dieu n'est pas temporaire, n'est pas ponctuelle, mais elle est permanente pour nous tous et elle nous permet, ayant goûté à cette grâce, de rester solidement ancrés en Christ. Et quatrième point mentionné par le pasteur Hannibal hier, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Cette justification nous permet d'espérer dans cette gloire de Dieu, dans la vie éternelle à laquelle nous sommes conviés en tant qu'enfants du Seigneur, en tant que pécheurs rachetés et graciés par la mort et la résurrection de Jésus. Paul va continuer dans les versets 3 et 4 que je relis pour vous. Il va continuer en expliquant maintenant les conséquences de cette justification. Il a d'abord énuméré des bienfaits, donc des bénéfices, et là il va énumérer des conséquences. Il va dire au verset 3, « Bien plus nous nous glorifions même des afflictions. » Première conséquence, au fait d'avoir été justifié, maintenant nous sommes à même de nous glorifier même dans les afflictions. Deuxième conséquence qu'on va voir demain plutôt, sachant que l'affliction produit la persévérance. Donc une autre conséquence, j'ai été justifié, et ce qui permet de passer à travers l'affliction, mais l'affliction produit, suscite chez nous la persévérance. Le verset 4, la persévérance va produire la victoire dans l'épreuve. Et le dernier point qu'on verra jeudi, et cette victoire produit l'espérance. C'est comme si Paul est en train de dire, voici, il y a des conséquences au fait d'avoir été justifié, et ces conséquences produisent elles-mêmes d'autres effets. Et le premier effet qu'on voit aujourd'hui, c'est que, ayant été justifié, nous pouvons donc nous glorifier même dans les afflictions. Et admettons-le, quand on parle d'affliction, c'est habituellement pas quelque chose qui est réjouissant. Lorsque on fait face à des moments difficiles, qu'on appelle affliction, la plupart d'entre nous, on passe par un moment où on est un peu démoralisé, voire même spirituellement, certains d'entre nous, on tombe même dans une espèce de léthargie en raison de l'affliction, dépendamment, bien sûr, si celle-ci, elle est sévère ou légère. Le premier point que je vous dirais, c'est que, ayant connu la justification, ayant connu le pardon de nos péchés et le salut qui nous a été offert par Jésus, ça devrait nous permettre d'avoir une nouvelle attitude face à l'affliction. Si avant l'affliction était là pour nous abattre, pour nous taire, voire pour nous rendre amorphes spirituellement, lorsque nous pensons à ce qui s'est passé précédemment, donc au salut dont nous avons bénéficié, eh bien à ce moment-là, l'affliction devrait être vue différemment. Et voilà pourquoi on peut parler de se glorifier dans l'affliction. Deux termes importants ce matin. Premièrement, l'affliction. L'affliction, c'est en grec klipsis, donc T-H-L-I-P-S-I-S. Je répète pour ceux qui prennent les notes, T-H-L-I-P-S-I-S. Et lorsqu'on parle de l'affliction, maintenant on va donner des synonymes qui vont permettre de mieux comprendre ce que c'est. On parle d'oppression. On parle effectivement de l'affliction, on parle de tribulation, on parle de détresse et on parle aussi de traits, T-R-A-I-T-S. Quand on parle des traits, là, on parle notamment des traits enflammés de l'ennemi qu'on nous mentionne dans Éphésiens 6 lorsqu'on parle des traits, des flèches qui nous sont envoyées. Donc ici, on ne parle pas tout simplement d'avoir une tristesse. On ne parle pas simplement d'avoir, en bon québécois, une bad luck ou une malchance. On ne parle pas d'une grippe. On ne parle pas d'un matin où on va aller au travail et puis on se rend compte qu'avant de démarrer, notre pneu est dégonflé. C'est pas de ça qu'on parle. Ici, on parle d'une oppression, d'une affliction qui nous est réservé ou qui est envoyé sur nous en raison de notre foi. Des pneus crevés, tout le monde en a. À l'occasion, lorsqu'on a une voiture, ça arrive. Il y a quelques années, pour X raisons, à chaque fois que je changeais mes pneus d'été à l'hiver ou de l'hiver à l'été, j'étais tout le temps avec une ou deux vis dans mes pneus. Demandez-moi pourquoi, j'en ai aucune idée. mais à chaque saison, j'avais une crevaison. Ça fait partie tout simplement des affres qui accompagnent le fait d'avoir une voiture. Donc, tu as une voiture, ben, tu risques d'avoir une crevaison. Il n'y a aucun automobiliste, fort probablement, en tout cas je le crois, qui a une voiture sans jamais avoir de crevaison. Ça fait partie de la vie de tout automobiliste. Ici, lorsqu'on parle des afflictions, on parle donc des attaques qui sont dirigées consciemment, délibérément à notre encontre, en raison de notre foi. Donc, ce qu'on nous fait subir, parce que nous sommes enfants de Dieu, parce que nous sommes disciples de Christ, parce que nous sommes en train de propager le message de l'Évangile. Alors, c'est bon de ne pas confondre les choses. Les gens, parfois, il y a des personnes qui exagèrent la notion d'affliction et puis de tribulation. Ils manquent de dentifrice un matin en se levant et ils y voient l'œuvre du diable. Non, c'est juste que tu as utilisé ton dentifrice jusqu'à la dernière portion. Puis là, tu te lèves un matin puis tu n'as plus de dentifrice. Donc, tu dois t'en procurer un autre. Ce n'est pas une attaque du diable, c'est simplement la vie normale. Donc, soyons très, très clairs. Ici, Paul va parler aux Romains des afflictions qui leur sont infligées à cause de la foi. Et il va dire, nous nous glorifions de ces afflictions. Et c'est à travers les synonymes ou les termes plus explicites de se glorifier que nous allons comprendre tout le sens ou toute la portée de ce terme. En grec, le terme glorifié, c'est kochaomai, donc je répète, j'appelle pour vous, je reprends, kauchaomai. Je répète, kauchaomai. Donc, kochaomai, qui va nous parler essentiellement avec quatre ou cinq termes différents qu'on va associer pour trouver des sens particuliers à ce que veut dire se glorifier. Soyons très, 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 très clairs en partant. Se glorifier, ça ne peut pas être devenir orgueilleux. Parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, n'y voyons pas une occasion, enfin, pour élever notre personne, c'est pas du tout ça. Glorifier, premièrement, va parler effectivement de gloire. Tirer une gloire de nos tribulations. Tirer une gloire de nos afflictions. On disait tout à l'heure que très souvent, lorsqu'on passe par des moments difficiles et des attaques de l'ennemi, voire des tribulations, on a tendance à être maussade, on a tendance à être abattu. Ici, Paul va dire aux Romains, aux Juifs de la ville de Rome, il va leur dire, aux Juifs chrétiens de la ville de Rome, il va leur dire, mais soyez heureux, trouvez-y un honneur. Voyez dans ces attaques, voyez dans ces tribulations un honneur. Ça, c'est la première chose, le premier changement de paradigme qui doit s'opérer chez nous. Au lieu de voir les tribulations comme un sujet d'avoir un esprit tristounet, d'avoir même la déprime totale, voyons-y tout d'abord un honneur à subir des outrages pour Christ. Pensez-y un peu. Lorsque quelqu'un vous accueillez ou vous rencontrez quelqu'un de très important, pensez à la personne la plus importante, à part Jésus, la personne la plus importante que vous pourriez rencontrer. Le premier ministre, le président de la République, le maire de la ville, peu importe. Une célébrité. Si cette personne vous demande un service, si vous faites quelque chose pour cette personne et que la personne vous dit merci, la plupart du temps, la réponse qui va être donnée qui va sortir de notre bouche, c'est de dire à la personne, non, il n'y a pas de quoi, c'était un honneur en fait. Il y a un honneur à servir Christ, sachant que nous ne méritions même pas d'être à son service, nous méritions la mort et la condamnation. Il y a un honneur qui nous est accordé à pouvoir servir Christ, et il y a un tout aussi grand honneur à pouvoir subir des maltraitances en raison de Christ, pour la cause de Christ, en sachant que nous qui étions condamnés à la mort éternelle, nous qui étions condamnés à une perdition éternelle, aujourd'hui nous sommes sauvés et nous pouvons traverser des afflictions parce que nous sommes sauvés. On s'attaque à nous parce que nous sommes représentants du royaume de Dieu. On s'attaque à nous parce que nous avons été rachetés et nous sommes maintenant devenus enfants de Dieu. Il y a un honneur à subir des outrages, des attaques en raison de Christ. Je pense que quand on sert quelqu'un qui est important, on est heureux de pouvoir servir cette personne. On en tire une joie profonde à pouvoir servir cette personne en sachant que nous ne sommes que de petits gens, nous ne sommes que de petites personnes et avoir eu le privilège de travailler pour quelqu'un de grand, avoir eu le privilège de subir quelques aléas en raison d'une personne qui est importante, ça suscite de l'honneur. Ça nous rend fiers, pas orgueilleux, fiers simplement d'avoir été là pour servir cette personne importante. Est-ce que tu as ce même sentiment? Ça devrait être un sentiment qui nous habite. Lorsque le diable nous attaque, quel que soit son motus operandi, quelle que soit sa façon de faire, quels que soient les canaux par lesquels il nous attaque, est-ce qu'on peut, au lieu de se frustrer, au lieu d'être abattu, est-ce qu'on peut revenir à la réalité comme quoi, s'il m'attaque, c'est simplement parce qu'actuellement, il y a Jésus en moi. C'est simplement parce qu'actuellement, le sceau de Jésus est appliqué sur moi. Sinon, il ne perdrait pas son temps avec moi. Le diable ne viendrait pas m'attaquer si je lui étais déjà acquis. Le diable ne viendrait pas perdre son temps à essayer de m'abattre, à essayer de me déprimer, à essayer de me rendre inopérationnel si j'étais déjà acquis à sa cause. Donc ça devrait être une raison de relever la tête, une raison de bomber le torse en disant « il m'attaque, mais il m'attaque à cause de Jésus. Alors je fais quelque chose de bien, je représente le royaume de Dieu. » Donc nous voyons aujourd'hui, nous nous glorifions des afflictions parce que nous voyons dans ces afflictions, dans ces tribulations, un honneur à subir des outrages pour Christ. Et ça, c'est le terme gloire. Mais ce terme gloire va avoir aussi des synonymes. Un d'entre eux, ou deux d'entre eux, en fait, c'est éclater et exploser. On parle d'une gloire qui est un peu comme un feu d'artifice. Donc, Paul est en train de dire, les afflictions que nous avons nous font exploser, nous font éclater. Quelque chose qui éclate, quelque chose qui explose, c'est quelque chose qui se transforme. Et régulièrement, les choses qui vont changer notre vie ne sont pas les choses agréables. Très souvent, les choses qui vont transformer notre vie sont les choses difficiles. Je dis même régulièrement que les gens qui suscitent des transformations chez nous ne sont pas ceux qui nous tapent sur l'épaule en disant « bien joué, bon travail, bon job, tu as bien fait ton boulot ». Non, ceux-là sont contents et satisfaits de ce que nous avons fait. Donc, ceux-là sont tout à fait satisfaits du statu quo. Mais ceux qui vont susciter des transformations et des changements sont ceux qui vont nous critiquer, ceux qui vont nous attaquer. Je vous ai déjà parlé d'un cas en particulier dans mon parcours. Je n'étais pas encore le responsable de l'église. Je travaillais auprès du pasteur Fontalvo à l'époque. Et il avait mis sur pied un certain comité dans lequel je devais présider, ou sur lequel je devais présider. Et il y avait quelqu'un qui n'est plus à l'église depuis déjà un certain nombre d'années. Quand je disais blanc, la personne disait noir. Quand je disais noir, elle disait blanc. Quand elle disait noir et que je disais noir, elle changeait de position et en disant non, mais en fin de compte, je dis blanc. En fait, l'objectif de la personne, c'était tout le temps de dire le contraire de moi. Et très souvent, il y avait une pointe qui venait délibérément dans les dernières minutes d'une rencontre, juste au moment où on sait qu'on doit clôturer. Et on n'est pas là pour démarrer d'autres palabres, mais il lâchait une bombe à ce moment-là. Il y a des fois où je ne rentrais pas à la maison tout de suite, où j'allais me stationner et je pleurais dans la voiture. Parce qu'à l'intérieur de moi, ça bouillonnait. Et je savais que j'aurais pu dire un mot, j'aurais pu utiliser des mots piquants et faire à ma tête. Mais je savais que je n'avais pas le droit. Mais vous savez quoi? Cette personne a transformé ma vie. Cette personne a forcé chez moi des changements. Cette personne a suscité chez moi des transformations qui ne seraient pas survenues n'eût été ses attaques. Alors pour nous, il est important aussi de savoir que les moments difficiles, que les tribulations par lesquelles nous pouvons passer, c'est souvent l'occasion de transformation. Alors ne cédons pas devant la pression, ne tombons pas dans l'abattement, mais voyons dans les tribulations qui nous entourent, voyons dans l'affliction que nous traversons un choix, une occasion pour Dieu de nous transformer. Une occasion, si nous lui permettons, de nous transformer pour le meilleur. Toujours dans la notion de éclater et exploser, quelque chose qui éclate et qui explose, ben c'est quelque chose aussi qui se répand. Lorsqu'on a un ballon qui est gonflé d'eau, et on perce le ballon. Ben à ce moment-là, l'eau qui était dans le ballon, dans la ballonne comme on dit au Québec, va se répandre partout. Ça va asperger tout autour de nous. Savez-vous comment l'Église a connu sa plus forte croissance dans les premiers siècles? Ça a été en raison de la persécution. La persécution a obligé l'Église à se disperser. Sinon, il se serait contenté d'être strictement à Jérusalem. Mais ils sont partis de Jérusalem et se sont établis un peu partout, dans l'Asie mineure, jusqu'en Europe et aujourd'hui, bien sûr, un peu partout sur cette terre. Pourquoi? Très souvent, en raison de la persécution. Donc, l'affliction nous permet non seulement d'être transformés, mais très souvent l'affliction permet aussi de nous répandre. La semaine dernière, je vous rappelais comment Dieu avait ouvert des portes insoupçonnées pour moi à travers la maladie. Il y a des endroits où j'ai pu répandre le témoignage de Christ, il y a des endroits où j'ai pu répandre l'odeur de Christ telle que nous dit la parole de Dieu, parce que j'ai été sorti de ma zone de confort, parce que je suis passé par un moment d'affliction, de tribulation, mais ça a permis que dans ces endroits dans lesquels ces afflictions m'ont envoyé, la maladie m'a envoyé dans des services médicaux très spécialisés, m'a envoyé dans des services d'oncologie, qui fait que j'ai pu témoigner à des gens dans des endroits comme cela que je n'aurais jamais atteint, n'eût été la tribulation n'eût été l'affliction. Donc aujourd'hui, lorsque l'affliction fonce sur nous, lorsque l'affliction vient vers nous, on ne tremble pas, on ne s'abat pas, on y voit l'occasion aussi pour Dieu de nous répandre, de nous donner de l'expansion autour de nous. On éclate, on explose et les débris du message de Dieu, les débris émanant de nous, de la grâce de Dieu, se répand en différents endroits que nous n'aurions jamais atteints si nous n'avions pas été confrontés avec l'affliction. Et les derniers synonymes qui vont avec se glorifier, koshaomai, c'est la joie ou se réjouir ou jubiler. La joie, se réjouir, et le verbe jubiler. Quand on parle que quelqu'un jubile, c'est que quelqu'un exalte de joie. Ça sort de lui. Il ne peut pas le réfréner, il ne peut pas répresser cette joie. Elle sort comme quelque chose qui bouillonne. C'est plus fort que soi. Le sourire apparaît, le rire apparaît. On commence à siffloter, on commence à chanter. La tribulation, l'affliction peut être une occasion de réjouissance à la pensée des résultats qu'elle va amener. Lorsque je sais que l'affliction produit la persévérance, que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve et que la victoire dans l'épreuve produit l'espérance, je ne peux pas m'abattre. Si je ramène les choses dans leur contexte, si Dieu est effectivement avec moi, si Dieu est effectivement à l'œuvre à mon égard, si Dieu est effectivement à l'œuvre à travers moi, alors je ne peux que me réjouir en sachant que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu, en sachant que ce qu'il me permet de traverser actuellement, c'est pour sa gloire. C'est parce qu'il va y avoir de bons résultats à ces moments plus difficiles que je peux traverser aujourd'hui. Face à ces attaques qui sont lancées contre moi, je me réjouis parce que je sais par la foi, je vois par la foi les résultats positifs qui vont en découler. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que notre attitude et notre vision par rapport à l'affliction, à la tribulation, se doit de changer. Qu'on ne regarde plus l'affliction et la tribulation comme un sujet d'abattement, comme un sujet de tristesse, comme un sujet de déprime, mais qu'on voit plutôt cela comme un honneur qui nous est fait de pouvoir subir cela pour Christ et avec Christ. Qu'on voit cela aussi comme une occasion que Dieu utilise pour nous transformer, pour forcer chez nous le changement et la transformation. Qu'on voit cela comme une occasion aussi de prendre de l'expansion, d'éclater, d'exploser, pour répandre le message dans des endroits qu'on ne serait pas allé, dans des endroits qu'on n'aurait pas fréquenté, n'eût été la tribulation. Et enfin, qu'on puisse voir cela comme une occasion de se réjouir, de jubiler, sachant que de cette tribulation, que de cette affliction, va en sortir quelque chose de glorieux et de merveilleux. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu fait toujours quelque chose qui est utile à l'avancement de son royaume. Que ce soit la simple transformation des serviteurs qu'on est, ou que ce soit le fait de prendre le message qu'il a placé en nous et qui nous amène à le répandre tout autour de nous, afin que d'autres puissent aussi connaître le même salut, la même grâce. que nous avons expérimenté. Alors nous nous glorifions aujourd'hui des afflictions. Seigneur, merci pour ce temps, merci pour cette parole, merci pour cette parole qui vient changer nos paradigmes, nos façons de voir les choses. Nous refusons aujourd'hui tout esprit d'abattement. Nous refusons aujourd'hui toute déprime. Nous voulons ramener les choses dans leur juste contexte. Nos vies t'appartiennent. Rien ne survient dans nos vies que tu ne l'aies permis et autorisé pour l'avancement de ton royaume et de la cause de Christ. Alors Seigneur, s'il nous est permis de passer à travers des afflictions, merci de l'honneur qui nous est fait de subir ce que nous subissons pour Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Je crois qu'il n'y a pas un plus grand honneur que de donner sa vie pour ses amis. Alors Seigneur, de donner ma vie pour toi, mon ami, et que ma vie subisse les affres des attaques de l'ennemi en raison de mon amitié avec toi, il n'y a pas un plus grand honneur. Merci Seigneur parce que tu permets l'affliction très souvent pour nous transformer, pour nous changer, pour nous sortir de nos zones de confort, pour nous amener Seigneur à être changés, à être différents. Merci Seigneur parce que c'est aussi l'occasion que tu utilises les tribulations et l'affliction pour répandre ton message. Ça a été tout le temps comme cela dans l'Église depuis le premier siècle. Le message de l'Évangile s'est répandu hors de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie. Il est allé jusqu'aux extrémités de la terre, certainement et très souvent, à cause de l'affliction et de la tribulation. Et ainsi, Seigneur, tu changeais les malédictions en bénédictions. Tu faisais, Seigneur, que ces attaques contre ton Église ne servent pas, en fait, à taire le message, mais à pousser ce message beaucoup plus loin. Seigneur, c'est une occasion de réjouissance à la pensée des résultats que la tribulation ou que l'affliction va amener. Résultat en nous, résultat dans notre entourage proche de transformation et de changement, mais résultat aussi de par le fait qu'on a été répandu à droite et à gauche, résultat de salut éternel pour des gens qu'on n'aurait pas atteints, hormis la tribulation. Alors merci Seigneur. Merci Seigneur d'aider ma sœur. Merci d'assister mon frère pour qu'il se réjouisse et qu'il voie les choses dans leur juste aspect. Qu'il puisse regarder l'affliction présente dans leur juste valeur, avec tes yeux, sachant que tu as sauvé l'humanité à travers l'affliction. Et qu'aujourd'hui, ta grâce se répand très souvent à travers l'affliction de tes enfants. Merci Seigneur de me donner une part à jouer dans ton œuvre, même si celle-ci, Seigneur, est parfois entourée d'affliction. Quel honneur de te servir et de travailler pour toi. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà pour aujourd'hui, on vous rappelle... Ce soir, il y a la reprise ou la rediffusion du cours biblique sur le livre aux Éphésiens, qui a été donné hier après-midi par le pasteur André. Ça a été diffusé en direct, mais c'est rediffusé le lundi soir. Donc ça, c'est la première annonce. La deuxième annonce, ceux qui voudraient demain soir avec le pasteur André, en présentiel uniquement à l'église, c'est le cours Fondements chrétiens, c'est les bases de la foi. Donc c'est à partir de 19h, vous êtes invité, si vous êtes libre, à vous présenter. Même si vous avez raté les autres leçons préalables, il n'y a pas de problème, vous êtes toujours les bienvenus et vous apprendrez aussi quelque chose. Et puis, mercredi, études bibliques à 19h. Donc ça c'est pour les annonces de début de semaine. Mercredi, c'est bien sûr en présentiel. et sur Internet. On vous rappelle que pour l'assemblée de dimanche, vous devez vous inscrire. Donc, les inscriptions ont déjà commencé, soit par courriel au courriel de l'Église ou sinon par un message téléphonique sur la boîte vocale de l'Église. Alors, sur ce, on vous souhaite une belle journée à tous. Et puis aujourd'hui, ayez le sourire. Même si ça va mal, ayez le sourire. Dieu est en train de faire des choses dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.